Bienvenue à tous pour cette rencontre intitulée « Les mémoires dangereuses », qui est le titre du livre dont nous allons parler, Alexis Génie. Je vais commencer par faire un petit rappel pour vous présenter. Vous êtes romancier et vous avez longtemps enseigné ce qu'on appelait les sciences naturelles dans un lycée de Lyon, qui est votre ville, la ville où vous travaillez, où vous vivez. Mais en fait, c'est la littérature qui vous occupe depuis quand même déjà un certain temps. Vous avez, je le rappelle, reçu le prix Goncourt pour votre premier roman, L'art français de la guerre, qui était paru chez Gallimard en 2011. Et puis depuis, il y a eu plusieurs textes, Élucidation, 50 anecdotes, paru en 2013, L'ennemi de Wallenham en 2015, tous publiés chez Gallimard. Et puis il y a donc ces Mémoires dangereuses, qui est un livre d'entretien que vous avez eu avec l'historien Benjamin Stora, qui est suivi d'une réédition de Transfert d'une mémoire. Et ce livre d'entretien est publié chez Albin Michel. C'est un livre vraiment absolument passionnant. Dans Transfert d'une mémoire, en 1999, Benjamin Stora analysait déjà les raisons pour lesquelles les questions de l'immigration et de l'islam en France seraient vraiment au cœur du débat public. Et vous, de votre côté, dans votre roman, vous mettiez en scène les guerres coloniales. C'était le sujet de l'art français de la guerre. Donc, d'une certaine façon, vous aviez presque un terrain naturel de rencontre avec Benjamin Stora. Mais j'aimerais quand même savoir comment est né le projet d'aborder cette question par le biais du livre d'entretien, qui est quand même une forme un petit peu particulière.
C'est après une rencontre avec Benjamin Stora. Il se trouve que j'ai écrit un livre de spiritualité chez Albin Michel, donc ce qui semble rien à voir. Mais Benjamin Stora, avec la même éditrice, avait écrit un livre qui était Les rapports entre juifs et musulmans. Il avait écrit ça avec un Tunisien, un musulman. Un jour, l'éditrice me dit « Est-ce que tu veux déjeuner avec Benjamin Stora ?» Je dis « Bah oui, j'ai lu ses bouquins, je serais curieux de le rencontrer. » Et puis donc on déjeune, on bavarde, on discute, et puis on se met à parler du Front National parce que c'était quelques semaines après les élections municipales où le Front National avait gagné un certain nombre de municipalités en France. Et on se met à dire des tas de choses au Front National et à parler de ce livre Transfert de mémoire que j'avais lu, mais j'avais trouvé à la bibliothèque municipale à Lyon. Et lui, il me dit « Ah, ça alors, enfin quelqu'un qui l'a lu !» Parce que c'était un livre qui datait d'une vingtaine d'années, mais qui n'avait eu aucun succès, puisqu'il était sorti dans les années 90, au milieu des années 90, et on croyait que le Front National allait disparaître. Parce qu'il y avait une baisse des scores électoraux et il y avait eu une scission avec Benoît Maigret qui avait fait une sorte de Front National bis. Et ça avait l'air complètement de se défaire. On s'est dit, c'en est fini de tout ça. Et donc le livre était passé totalement inaperçu. Moi, je l'avais lu et il m'avait beaucoup plu parce qu'il correspondait à quelque chose que j'avais senti et que j'avais déjà mis en scène dans le roman que je faisais, donc L'art français de la guerre. Et donc, en discutant de tout ça, l'éditrice s'exclame « Eh bien, faisons un livre avec ça !» Voilà, ça c'est le rôle des éditeurs et des éditrices, c'est-à-dire de penser aux livres auxquels les auteurs ne pensent pas. Mais comment faire un livre là-dessus? On n'allait pas faire un livre d'histoire, un livre... finalement, c'était issu d'une discussion. Benjamin Stora est plutôt un homme de parole. Écrire, ça lui est un effort, alors que parler... Il a une sorte de créativité verbale. Voilà, quand il parle, il invente des tas de choses. Il est très créatif dans la parole. Donc on s'est dit, on va faire un entretien. Et... Donc on s'est vu un certain nombre de fois, on a bavardé sur le sujet, on a enregistré tout. Après on a fait un travail colossal de retranscription de tout ce qu'on avait raconté, puis de montage, c'est-à-dire copier, coller, remonter, mettre, pour que ça. Et puis on a réécrit tout ça pour que ça soit du français écrit. Donc. C'est un entretien au départ, mais un entretien qui a quand même été bien travaillé, bien précisé, bien réécrit. Voilà. Alors, on voulait quelque chose qui soit aisé à lire, pas très long, qu'on puisse le lire facilement, et qui soit pas une façon de faire le tour du problème, mais une façon d'aborder le problème. Et nous nous étions rencontrés sur une idée simple, qui est l'idée centrale de cet entretien, c'est que les origines de l'imaginaire du Front National, alors attention, les mots sont importants, je parle bien de l'imaginaire, je ne parle pas du programme, c'est-à-dire tout ce qui va générer les idées du Front National, donc les origines, ce ne sont pas ni le fascisme ni le nazisme, c'est la colonie française et essentiellement la colonie algérienne. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire importée, ce n'est pas issu de Vichy, ce n'est pas issu du nazisme. Pour dire les choses trivialement, dans l'imaginaire du Front National, l'arabe ne prend pas la place du juif. Non, l'arabe est à la place de l'arabe parce que c'est une histoire française, une histoire qui est enracinée dans la colonie et qui s'enracine très précisément dans l'histoire très violente de la colonie algérienne. Et donc c'était l'idée que moi j'avais mis en scène dans le roman, c'est l'idée qu'il avait développée lui dans son livre, et c'est cette idée qu'on voulait lancer dans un entretien, c'est-à-dire quelque chose qui se lise bien, justement pour qu'il y ait simplement une idée qui soit donnée. Après, que des historiens travaillent, que des penseurs de la politique travaillent pour essayer de faire le tour de l'idée. Nous, notre propos, c'était pas ça. C'était lancer une idée dans le débat. Alors, quel est l'intérêt de cette idée ? Eh bien, ça permet d'expliquer un certain nombre de choses et ça permet aussi de sortir de la simple vision morale du Front National. Parce que la vision morale, c'est bien. Le Front National, ok, c'est des idéologies de haine, d'exclusion, machin, etc. Il ne faut pas voter pour eux, faire un barrage républicain, machin, etc. etc. Mais tout ça, ça n'empêche rien du tout. Ça, au contraire, et les gens qui votent Front National disent « Ouais, de toute façon, moi, je ne parle pas la langue de bois. Moi, je suis cash, je vois la réalité. » Et on n'analyse jamais ce que c'est vraiment le Front National. Et quels sont les rapports du Front National avec les institutions, avec la République, avec ça, on l'analyse très peu. Donc ce qu'on voulait, c'est lancer une idée qui permette de réfléchir vraiment sur l'aspect politique et historique du Front National. Et ne plus s'occuper du côté moral, qui est plein de bonne volonté, mais qui est d'une inefficacité absolue pour comprendre quelque chose.
Alors c'est un livre qui est vraiment passionnant, parce qu'il montre à quel point l'imaginaire colonial est encore redoutablement actif. Alors effectivement, avec ce propos central qui est celui d'examiner l'histoire coloniale et notamment l'histoire de l'Algérie et notamment les déflagrations sur la société française de la guerre d'Algérie, qui est vraiment le cœur du problème, si je puis dire. Et vous montrez bien à quel point la base rhétorique du Front National est exactement la même que celle qui était développée du temps de l'Algérie française.
Alors, par rapport à l'Algérie française, en fait, il y a deux choses qui nous ont frappé. C'est premièrement, comment parce que bon, l'Algérie, c'était quelque chose, une colonie particulière, puisque c'était trois départements français. C'était pas, à proprement parler, c'était pas une colonie, puisque ça faisait partie intégrante de la France. C'était trois départements supplémentaires par rapport à la France métropolitaine, où normalement la République était instituée, où les institutions républicaines étaient instituées, etc. Il y avait des élections qui envoyaient des députés à l'Assemblée nationale à Paris. Bon, bien sûr, il y avait une population alors qu'on ne savait pas trop comment les appeler, les musulmans, les arabes, qui étaient citoyens de l'Empire, sujets de l'Empire et non pas citoyens français. Donc eux, par exemple, n'avaient pas le droit de vote pour des députés à l'Assemblée nationale. Donc il y avait une façon de gouverner ces trois départements qui était une façon superficiellement républicaine, mais en fait qui était basé sur des rapports de force et sur une négation des institutions. Et il y a eu après la période aiguë de la guerre, ou surtout sur la fin de la guerre, à l'époque de l'OAS, où finalement il y a eu une sorte de tentative de freiner l'histoire et de freiner la décolonisation, et avec des réactions extrêmement violentes de la population pied-noir pour essayer de garder cette Algérie française, mais soutenue par une partie de l'armée, une partie aussi de la population. Et là il y avait aussi toute une représentation des institutions, de la société, qui était très particulière. Et ce qui est quand même frappant, c'est de voir que ce soit dans l'administration de la colonie ou que ce soit dans le moment aigu de la guerre, il y a toujours eu un rejet des institutions et un rejet de la démocratie représentative, un rejet en fait de la République. Et tout se passait selon des rapports de force entre un peuple qui s'agite qui revendique dans la rue et un certain nombre de notables qui ont le véritable pouvoir sans obligatoirement d'ailleurs en être des dépositaires légaux. C'est-à-dire que c'était un système de rapports de force entre un peuple et des notables. Et avec une façon d'incarner personnellement le pouvoir. C'est-à-dire, normalement, dans la République qui est issue de la Révolution, mais qui est également issue d'après 45, les institutions sont relativement abstraites. C'est-à-dire que... quelqu'un qui est élu à une place, c'est pas lui qui commande, c'est il joue un rôle, et c'est ce rôle qui est important. C'est pas lié à sa personne le pouvoir. Or, dans cette vision qui était coloniale, il n'y avait que des rapports de personnes, comme des rapports un peu féodaux, si vous voulez, entre personnes. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que dans les propos du Front National et les actions du Front National, je ne parle pas du programme, parce que le programme, c'est quelque chose qui est quand même pensé pour être légal, pour être... Voilà. Mais les propos et les actions, il y a cette même méfiance des institutions, ce même rejet de la démocratie participative, cette même volonté de personnaliser le pouvoir, cette même volonté de transformer les règles en rapports de force. Et ça se voit dans les propos, mais ça se voit aussi, par exemple, dans la gestion des municipalités Front National. Il y a quelque chose qui est étonnant. Moi, qui m'avait étonné quand j'avais étudié ça pour faire mon roman, je me rendais compte qu'il y avait un lien extraordinaire entre tous ces fantasmes du Front National, cet imaginaire-là, et puis la réalité de la colonie. Et du coup, dans cet imaginaire-là, il y a en effet aussi le rapport à l'autre, le rapport à l'indigène du moment de la colonie, le rapport à l'immigré au moment donc dans la France métropolitaine, et avec cette espèce de ligne ethnique qui donne des droits ou pas, avec une obsession de eux et de nous. Mais c'est pas la seule caractéristique. Souvent, on résume le Front National à un rapport un petit peu brutal et exclusif vis-à-vis des immigrés, mais on oublie toujours que dans les propos du Front National, il y a une façon de gérer le pouvoir qui est totalement anti-républicaine, anti-démocratique. Si dans un monde, on va dire, dans une sorte d'uchronie comme ça, le Front National était au pouvoir et appliquait ses idées, en effet, les immigrés auraient du mal, mais tout le monde aurait du mal parce que, en gros, République et démocratie seraient effacées au profit d'une façon un peu étrange de gouverner. Parce que c'est comme s'il y avait le fantasme que le peuple tout seul, par le biais de quelques hommes charismatiques qui écoutent le peuple, pouvait se gouverner comme ça sans règles. C'est-à-dire que quand on écoute le discours du Front National, on se rend compte que les règles, les lois, les institutions sont attaquées en permanence. Et que ce qu'il faut, c'est agir. Ce qu'il faut, c'est agir. Il faut répondre aux attentes du peuple. Alors, comment on fait pour connaître les attentes du peuple, ben là, il y a un grand mystère. Mais ça a l'air naturel. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui est... Et donc, du coup, ça se fait comment ? Eh ben, ça se fait par le rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Il y a un petit côté irrationnel dans cet imaginaire-là, où on pense qu'il va y avoir des grands hommes qui vont écouter le peuple et qui vont agir au bénéfice du peuple. En fait, c'est assez irrationnel. Et donc, cette impossibilité va se résoudre par la violence. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de la guerre d'Algérie. L'OAS a été totalement incapable de produire le moindre projet politique viable. C'en est d'ailleurs surprenant, parce qu'il y avait dans cette mouvance-là, il y avait des gens qui étaient des gens valables, des gens cultivés, des gens intelligents. Il y avait des grands officiers de l'armée qui s'étaient occupés qui étaient responsables pendant la guerre. Et aucun n'a été capable de produire un projet politique viable. La seule chose qu'ils ont été capables de faire, c'était de tuer des gens. Et tuer des gens un peu au hasard dans la rue, en gros c'est se battre contre les barbouzes envoyés par la métropole pour essayer de les combattre et tuer des Arabes dans la rue. Ça a été la seule action véritable de l'OAS. Et à mon sens, ça montre l'impossibilité du projet politique. Et le Front National, pareil, n'a pas, à mon sens, au sens de Benjamin Stora aussi, de projet politique véritablement constitué. Ce sont des déclarations, des envolées, mais il n'y a rien qui tient. Par contre, il y a du rapport de force et de la violence.
Alors les mémoires dangereuses dont il est question, puisque c'est le titre du livre, ce sont en fait des mémoires qui n'arrivent pas à être prises en compte dans l'espace public. Ce sont des mémoires qui ne sont pas apaisées, hein, au fond, c'est ça. D'une certaine façon, le constat que vous faites dans cette conversation, c'est que, en dépit du travail, et il est réel, qui a été effectué par les historiens, parce que Benjamin Stora en fait partie, il y a quand même eu de grands historiens qui ont travaillé sur l'histoire coloniale, eh bien, en dépit de ce travail-là, les mémoires, le partage des mémoires entre la France et l'Algérie notamment, restent des mémoires qui ne sont pas apaisées.
Ah oui, alors ce qui est terrible, c'est que dans cette guerre d'Algérie, ce n'est pas... une petite digression avant, cette guerre a impliqué beaucoup de monde. Ouais. Ça veut dire que tous les jeunes gens de 20 ans entre 1956 et 1962, ont participé à cette guerre. Il y a 2 millions de jeunes gens qui sont allés faire la guerre. Il y a une centaine de milliers de harkis qui sont revenus en France. Il y a 1 million de pieds noirs qui sont revenus en France. Il y a de l'ordre d'1 million d'Algériens qui ont émigré après 1962 vers la France. Donc ça fait quand même plusieurs millions de personnes qui étaient aux premières loges et qui se sont retrouvées en France, dans un pays qui ne voulait plus rien savoir de cette histoire. Pourquoi on ne voulait plus rien savoir de cette histoire ? Parce qu'on ne sait pas comment la raconter. Parce que ça n'a pas été, malgré la légende qui consiste à dire il y avait une nation algérienne, elle a été envahie par la France, puis après la nation algérienne s'est réveillée, a chassé la France et la France est repartie, ça c'est du pipeau. C'est quelque chose de très complexe, l'histoire de l'Algérie. L'Algérie n'était pas véritablement une nation ou un pays constitué. En 1830, c'était des villes semi-indépendantes soumises de façon féodale à Istanbul, à l'Empire ottoman. Donc c'est quelque chose de complexe. Et petit à petit, un nationalisme algérien a vu le jour, mais il a vu le jour en lien total avec la France. Les premiers éléments de nationalisme algérien qui datent de l'entre-deux-guerres, des années 20, c'est complètement lié à un rapport à la France. Mais Salih Hadj, un des premiers qui est un nationaliste algérien, était totalement francophone et avait étudié aux écoles de la République. Bon. Pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est au moins une douzaine de groupes différents qui se sont affrontés. C'est-à-dire que, il y a eu Français-Algériens, d'accord, mais il y a eu, en France, il y a eu les appelés, il y a eu les militaires, il y a eu, au départ, des divergences entre les communistes et les autres, et il y avait eu les pieds noirs qui étaient... Et dans les pieds noirs, il y avait les juifs, il y avait les pieds noirs chrétiens, il y avait ceux qui étaient les pieds noirs libéraux, ceux qui étaient Algérie française pure et dure. Au sein des Algériens, il y avait des harkis, il y avait des gens du FLN, il y avait des gens du MNA, les messalistes, puis il y a ceux qui auraient préféré pas choisir, et puis etc. etc., etc. C'était une grande confusion avec une violence qui circulait, c'est-à-dire tous ces groupes se sont entretués les uns les autres à un moment donné. se sont alliés, se sont trahis. Bon, tout le monde a du sang sur les mains. Et tout le monde a une mémoire de victime. Ça veut dire que les gens du FLN, classiquement, ont une mémoire de victime, parce qu'en effet, ils se sont battus contre l'armée française, d'accord. Mais les gens du MNA ont été massacrés par le FLN. Et puis, les harkis se sont alliés à la France, mais après, ils ont été sauvagement massacrés. Et en France, il y avait les appelés, qui ont une mémoire aussi de victime, parce qu'on les a envoyés faire une guerre qu'ils ne voulaient pas faire. Et puis après, les pieds noirs aussi, parce qu'ils ont été chassés. Mais l'armée de métier a aussi une mémoire de victime, parce qu'ils ont fait un sale boulot, et après, on leur a demandé d'arrêter. Et du coup, tout le sang qu'ils avaient sur les mains, c'était pure culpabilité, etc. Tout le monde a sa vision de l'histoire, tout le monde a sa mémoire de violence et de victime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'il y ait eu ce grand déferlement de violence? Eh bien, on est incapable, encore aujourd'hui, de donner un récit global de cette guerre d'Algérie. Un récit global qui intègre toutes les parties de la guerre. Alors par exemple, j'avais parlé dans l'art français de la guerre, j'avais parlé d'un film célèbre qui s'appelle La bataille d'Alger, un film de Pontecorvo qui a fait en 65, qui est devenu une sorte de film officiel de l'État algérien, parce que ça raconte la bataille d'Alger entre le FLN et puis l'armée française. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'affrontement est limité à ça. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de héros du peuple FLN qui se battent contre des parachutistes qui sont des techniciens de l'information et de l'intervention. Et puis à la fin, les héros perdent. Ils meurent, mais héroïquement. Mais après, le peuple quand même se soulève et chasse les Français. Bon, il y a un truc qui manque dans ce film. Ce qui manque, c'est les pieds noirs. Ils ne sont pas là. Ou alors, on les voit, c'est vraiment des sales types, c'est-à-dire que c'est des foules qui vont lyncher un petit gamin ou un vieux en se mettant à beaucoup pour le bourrer de coups de pied. C'est vraiment, les seuls qui sont racistes, c'est eux. Les parachutistes, c'est des techniciens. Mais les pieds noirs, c'est vraiment des sales types. Et finalement, donc, du coup, on se rend compte qu'il faut pas qu'ils soient là. Et d'ailleurs, ils ne sont pas là. D'ailleurs, ça a été tourné à Alger en 1965, et en effet, ils étaient partis. La ville était vidée de pieds noirs. Ça veut dire que le peuple pieds noirs, pouf, disparu. Pas droit à l'histoire. Pareil pour les harkis, pas droit à l'histoire. Pour les messalistes, pas droit à l'histoire. Pour les FLN, obligation d'une histoire héroïque et souffrante. Les appelés, pas droit à l'histoire. On les a forcés à faire des trucs qu'ils ne voulaient pas faire. Les militaires, pas droit à l'histoire. Personne n'a droit à l'histoire. Comment on fait pour raconter ça? Eh bien, on n'arrête pas de parler d'un tabou sur la guerre d'Algérie. Le tabou de la torture, etc. Il n'y a pas de tabou. Tout est disponible, tout est là, tout est visible, tout est sous nos yeux. Moi qui ne suis pas un historien, voilà, mes études, c'est avoir fait des sciences naturelles. Voilà. Spécialiste des fleurs et du découpage de souris. En n'ayant aucune formation que ce soit, consultant uniquement ce qui est en accès libre assez facilement dans une bibliothèque municipale, dans des soldeurs de livres ou sur Internet, j'ai réussi à comprendre ce qui se passait, à trouver tout ce qu'il fallait et me rendre compte que tout est disponible depuis les années 50. Il y a zéro tabou sur la torture. Par contre, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire avec tout ça, on ne sait pas comment le raconter. Et il y a un tabou, s'il y a un tabou, il y a, c'est sur le récit de cette guerre. Et derrière, le récit du fait colonial. Qu'est-ce que c'était que la colonie? Et le problème de la colonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un angle mort de la République. C'est-à-dire que la République dont on est légitimement fier, la République des droits de l'homme, etc., eh bien, elle s'appliquait en France, elle s'appliquait à moitié dans la colonie. C'est un problème. Donc on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi faire de la colonie, on ne sait pas quoi faire de la guerre. Donc, on reste dans le silence. Et donc, comme tous les traumatismes qui restent dans le silence, on ne les voit pas bien, mais ils continuent à agir. Et notre hypothèse avec Benjamin Stora, c'est de dire qu'il y a un traumatisme très violent, dont on ne sait pas quoi faire, donc que l'on tait, qui est partagé par des millions de personnes en France, et que l'on n'arrive pas à raconter. Mmh. Et du coup, ça continue d'agir en permanence.
Vous essayez de réfléchir, dans ce dialogue avec Benjamin Stora, vous essayez de réfléchir sur des... des solutions quand même, ce qui pourrait venir contrecarrer ces mémoires dangereuses. Et vous dites à un moment, et ça c'est vraiment intéressant, qu'au fond, une des façons de procéder, ce serait d'agrandir l'histoire de France. Agrandir l'histoire de France en intégrant précisément l'histoire, alors plus seulement de l'Algérie, mais l'histoire du Maghreb et puis l'histoire coloniale. Un agrandissement d'autant plus nécessaire qu'en ce moment, ça vous l'esquissiez tout à l'heure, on assiste vraiment, et c'est très dangereux, à un cloisonnement des mémoires. Il y a une sorte de communautarisme de la mémoire qui, lui, alors est vraiment la porte ouverte pour le développement des extrêmes droites, ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai que on essaie en ce moment de chercher ses racines, voilà, d'isoler ses racines. Mais après, c'est la France réduite à ses racines, c'est quoi ? C'est Vercingétorix, mais bon, alors, du coup, c'est même pas une racine judéo-chrétienne, hein, parce qu'il n'était pas très chrétien, Vercingétorix. Mais pour faire comprendre ça, j'avais une métaphore de sciences naturelles. Alors, si vous prenez une fleur, si vous regardez une fleur, comment c'est structuré une fleur, c'est étrange, hein, avec tous ces pétales, puis pourquoi cette espèce de pistil, pourquoi ces petites glandes nectarifères quelque part, puis ce pollen en petites boules, etc. Enfin, comment on en est arrivé à faire un truc aussi compliqué ? Puis si vous regardez une abeille, vous voyez la petite abeille avec son front dégagé, avec ses petites mandibules, avec ses pattes, etc. Et pourquoi elle est structurée comme ça ? Puis si vous mettez les deux en face, la fleur et l'abeille, vous vous rendez compte que chacune est structurée pour l'autre. C'est-à-dire que l'abeille va se nourrir des glandes nectarifères, va coller les petites boules de pollen avec ses pattes pleines de poils, et puis après va aller féconder les fleurs, et donc là, ça va être pollen contre nourriture, fécondation contre nourriture. Et on ne peut comprendre l'abeille qu'en voyant la fleur, on ne peut comprendre la fleur qu'en voyant l'abeille. Alors, on va faire, c'est une métaphore, entre l'Algérie et la France. Si on voit la France sans l'Algérie, on ne comprend rien. Si on voit l'Algérie sans la France, on ne comprend rien. Donc, du coup, l'Algérie fait partie de l'histoire française et la France fait partie de l'histoire algérienne. Il y a quelque chose de profondément lié. On a beau dire qu'ils sont tellement inassimilables et lointains, etc. C'est pas vrai, il suffit de voir un Algérien discuter avec, on se rend compte qu'on est cousins. On est profondément lié dans notre histoire passé, mais puis dans notre histoire contemporaine aussi. Donc, il est nécessaire de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre cette histoire et cette histoire commune. C'est-à-dire que l'histoire des pays de l'ancien empire n'est pas indifférente à la France. Et c'est nécessaire de comprendre que il n'y a pas qu'une histoire d'une France, j'appelais ça une France étroite, la France réduite à sa métropole. La France est un pays qui a été impérial, c'est un pays d'émigration, d'immigration, c'est un pays où plein de choses se sont mélangées. Essayer d'isoler une essence de la France qui serait juste là au milieu, en plein massif central, c'est un peu absurde. Il y a nécessité de faire le lien avec d'autres choses, d'autres nations, d'autres pays, d'autres lieux qui sont totalement liés à cette histoire. Alors bien sûr, comme Benjamin est historien, moi je suis romancier, nos solutions, elles passent par l'étude, l'histoire et le récit. Hein, parce que nous, c'est ce qu'on sait faire dans la vie. Hein, donc, mais c'est nécessaire. Nous nous rendons compte, alors lui en tant qu'historien, en tant que président du musée de l'immigration, puis moi en tant que romancier, rencontrant des gens, parlant du roman, etc., nous nous rendons compte que l'histoire de France sur ce sujet-là est très mal connue. Et qu'on dit des tas d'approximations, de contre-vérités, on ne comprend pas vraiment. Et donc du coup, on en reste au présent immédiat, et du coup, on ne comprend pas le présent immédiat. Si on n'a pas une petite épaisseur de temps pour comprendre les choses, on ne comprend rien. Alors après, comprendre, alors après, c'est, vous vous rappelez notre merveilleux Premier ministre, l'homme au coup de menton énergique, qui disait oui, non, comprendre, il ne faut pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser, et puis excuser, c'est... Il faut comprendre. Il faut comprendre si on veut faire quelque chose, si on veut résoudre les problèmes, et voire même les problèmes immédiats, et même les problèmes de djihadisme, par exemple, si on ne comprend pas ce qui se passe et d'où ça vient, si on se contente de dire c'est des fous, il faut les arrêter, Si les conditions de production de fous sont toujours les mêmes, les fous seront toujours produits. Donc il y a nécessité de comprendre profondément ce qui se passe. Et pour l'instant, on nage dans le potage. Donc il y a nécessité de comprendre ce qui se passe dans nos sociétés post-coloniales, où il y a quelque chose qui a été raté du point de vue de la création de citoyenneté. Et dire, c'est parce qu'avant on assimilait des chrétiens et maintenant, comme c'est des musulmans, on ne peut plus les assimiler, ça me paraît être une vision un peu courte. Alors après que l'islam ait un rôle dans cette histoire, probablement, mais pas celui d'essence. Parce que c'est ce qu'on dit un petit peu aussi dans le bouquin, dans l'entretien. Il fut un temps, au 19e siècle, où on pensait les races. Bon, les races comme étant une sorte de génétique qui se transmet et qui donne des propriétés aux gens. Et puis, on s'est quand même rendu compte que, un, ça tenait pas debout, et deux, quand on commence à penser comme ça, ça finit mal. Donc, après 45, on a arrêté de penser comme ça. Mais la pensée racialiste, je ne dis pas raciste, racialiste dans le sens où, comme s'il y avait une essence des gens selon leur race, cette pensée racialiste, elle a été transformée en pensée un peu ethniciste, culturelle, culturaliste, et maintenant religieuse. C'est-à-dire, c'est comme si les gens d'une certaine ethnie, d'une certaine culture ou d'une certaine religion avaient un truc génétique qui faisait qu'ils étaient d'une certaine façon, et puis ça se transmet. Ça se transmet comme ça de génération en génération. Les gens, ils ont beau être là depuis 4 générations, mais de toute façon, s'ils sont musulmans, ils sont toujours de l'extérieur. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'un point de vue intellectuel, ça fonctionne exactement comme le racialisme du 19e. C'est un racialisme génétique. Bon, il suffit de regarder, alors, par rapport à l'islam, on dit oui, l'islam c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Il suffit de regarder sur toute l'étendue de la planète et sur les 1500 ans d'existence de l'islam, de voir le nombre hallucinant de différentes formes qu'a pu prendre l'islam. Une simple connaissance de l'histoire montre que de dire que l'islam c'est ça, ça tient pas debout. L'islam a pris 1000 formes. Et dire oui, dans l'islam, il n'y a pas de cette théologico-politique, il n'y a pas de place pour le laïc. Il suffit de regarder les États islamiques qui ont existé. L'Empire ottoman, grand État islamique, était moderne avant même des pays européens. Et les sultans ottomans, ils avaient beau être califes. C'était assez honorifique, mais il y avait à côté d'une charia, il y avait ce qu'ils appelaient un canoun, c'est-à-dire des lois civiles. Parce que, comme c'était des gens rationnels, ils savaient bien qu'un empire, ça ne se gouverne pas avec de l'exégèse du Coran. Il faut quand même des règles un peu nettes. Et c'était tout à fait... ça fonctionnait très bien. Donc, il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte que toute cette pensée un peu essentialiste en disant « eux, c'est comme ça, nous, c'est comme ça », voilà, ça ne tient pas debout. Quoi. C'est pas intuitif. Il faut réfléchir un peu, il faut creuser un peu, il faut développer du savoir. Et en ce moment, on est dans un tel stress, dans une telle tension, dans une telle violence que essayer de réfléchir un peu, ça apparaît comme une sorte de collaboration, de trahison. C'est bien dommage.
Le livre montre bien le fait que la société française, mais pas seulement la société française, en fait toute société qui prend le risque de ne pas permettre la circulation et le métissage des mémoires, quand sa réalité est précisément une réalité de métissage, et c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, c'est s'exposer au risque de la violence. Et alors là, on est... Votre livre est vraiment en résonance immédiate avec l'actualité, avec la violence faite aux sociétés françaises et européennes de façon générale. Et donc cette actualité, elle renforce encore plus la nécessité, vous le disiez tout à l'heure, il faut comprendre. À défaut de comprendre, on ne va jamais trouver les bonnes réponses et les bonnes solutions.
Tout à fait. Alors après, il faut faire il y a une sorte aussi de confusion par rapport à tout ce qui était attentat, etc. Enfin, il y a des types dangereux. qui ont en ce moment un pouvoir de nuisance, qui projettent des attentats ou voilà. Bon, ok. Eh bien, ce sont voilà, ces gens sont à surveiller et à voilà. Bon. Il n'y a pas de, de laxisme à avoir sur les gens dangereux, c'est clair. Après, il faut réfléchir sur d'où ça vient et pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas Daesh qui nous envoie des commandos infiltrés pour faire des attentats en Europe. C'est Daesh, par cette idéologie djihadiste, islamiste, va appuyer sur les failles de la société française. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les failles de la société française qui bougent et qui provoquent les attentats. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un malaise profond en France, un malaise identitaire, mais qui n'est pas que le malaise des immigrés, qui est le malaise global en France. Il y a un malaise profond en France, et du coup, la propagande a de l'effet. Et donc ça, on aura beau vouloir arrêter tous les gens qui vont en Syrie ou bombarder l'État islamique, ça ne change rien au fait que dans nos sociétés, il y a des failles, et que ces failles qu'on appuie dessus, ça crée de la violence. Donc il faut faire quelque chose pour essayer d'identifier ces failles et puis essayer de les réparer. Et ça, ça ne va pas se faire en 6 mois. Ça durera peut-être une génération. Mais bon, on ne peut pas faire autrement, donc il faut le faire. Voilà, c'est un horizon un peu lointain, mais une société abîmée, ça ne se répare pas comme ça. Et il y a nécessité donc de... Alors, comment faire ? Ben comment faire, c'est difficile. Eh bien, il y a un point qui est important, c'est déjà de pouvoir considérer que s'il y a 5 millions de citoyens, de nos concitoyens qui sont musulmans, ben c'est pas grave, c'est normal, et ça pose aucun problème. De toute façon, la République ne s'en occupe pas. Enfin, ne s'occupe pas de savoir quelle est la religion des gens. Donc, et de considérer que l'islam, de nos jours, fait partie de la culture française. Comme le judaïsme fait partie de la culture française, comme le protestantisme fait partie de la culture française. Voilà, chaque siècle rajoute une couche à la culture française, et bien ça sera la couche du 21e siècle que de penser qu'il y a une partie de nos concitoyens qui sont musulmans, et qu'il faudrait favoriser l'existence d'un islam français et qui soit poreux aux valeurs françaises, républicaines, des Lumières, etc. Et ça, c'est tout à fait possible. Nous en avions en Europe un merveilleux exemple. Il y avait en Europe une population musulmane totalement laïcisée, totalement intégrée à une société donc laïque et républicaine, etc. C'était les Bosniaques de Yougoslavie. Bon. Ça prouve bien que l'islam est assimilable à une société laïque. Le problème, c'est qu'ils ont été liquidés par les Serbes, dans une sorte de sursaut de violence. Les seuls qui les ont aidés, ce sont l'Arabie Saoudite et des pays, idéologiquement un peu douteux. Et petit à petit, cet islam laïcisé s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus raide et identitaire. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. C'est le résultat d'une guerre, c'est le résultat d'une violence. Il se trouve que dans les pays arabes vont mal. Voilà. L'islam va mal, parce que les pays arabes vont mal, tous les pays du Moyen-Orient vont mal. Du coup, ouais, ça va mal. Mais ça ne veut pas dire qu'au cœur, il y a un islam qui est maléfique et qui dévore les gens. Donc nous sommes forcés à l'utopie. De toute façon, soit on est dans un truc de guerre civile totale où tout le monde s'entretue, soit on est dans une utopie où on se dit que tout le monde peut vivre ensemble. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative.
Oui, mais simplement pour vivre ensemble, il faudrait pouvoir surmonter cet écueil que vous soulignez d'ailleurs dans votre discussion, qui est le problème de cette impossible assimilation, parce que c'est le terme qu'on emploie en France, impossible assimilation pour les populations de culture musulmane. C'est ce que Benjamin Stora a appelé le sudisme, pour traduire justement la situation faite aux immigrés. Et cette question de l'assimilation, c'est vraiment un nœud autour duquel on tourne depuis extrêmement longtemps et que la société française n'a toujours pas réussi à surmonter.
Ouais, tout à fait. Alors après, il faut savoir ce que ça veut dire assimilation. C'est-à-dire que quand, par exemple, certains, on va dire que je ne nommerai pas, disent oui, quand on, qu'on bout deux générations de présence en France, on s'appelle toujours Kader ou Mohamed, eh ben, on n'est pas français. Ça veut dire que les choix de prénoms... Alors après, ça serait quoi un prénom français ? Est-ce que Kevin, c'est un nom français ? Bon, est-ce que Jean-Félix, c'est un nom français ? Enfin bon, après, qu'est-ce qu'un nom français ? Et puis, est-ce que peut-être que les gens, ils peuvent bien s'appeler comme ils veulent ? Voilà. Non, mais il y a un vrai problème. On demande une sorte d'assimilation-disparition. Est-ce que c'est souhaitable ? On va pointer des choses, des détails. Le burkini, on a vu. Les menus de substitution. Là, je viens de voir dans Le Monde, il y avait tout un truc sur la primaire de la droite. Donc tous les candidats se lâchent en disant oui, on va demander ça, ça et ça. Et à chacun, il y a un petit truc un peu identitaire. Donc, ça va juste. Donc le voile, burkini, machin. Il y a aussi ne pas enseigner l'arabe au lycée, par exemple. Je me dis, mais attends, c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que ça serait marque identitaire. Donc du coup, il vaut mieux que les gens ils aillent apprendre l'arabe à la mosquée plutôt qu'au lycée. Moi, tant qu'à faire, autant qu'ils l'apprennent au lycée. Au moins, ils apprendront de l'arabe culturel et littéraire. Bon, et c'est plein de vexations. Dire, franchement, supprimer les plats de substitution à la cantine, c'est une vexation. C'est, je veux dire, que les gens ils mangent ce qu'ils veulent. C'est n'importe quoi. Pareil pour le. On s'obsède sur les tenues de bain et on voit une malheureuse femme avec un foulard dans les cheveux et simplement une petite blouse qui somnolait sur la plage à Nice, qui se fait verbaliser et forcer d'enlever ses vêtements par des policiers municipaux. Mais c'est vexatoire. C'est presque de l'ordre de la discourtoisie. Enfin, elle mettait pas en péril la République. Par contre, un refus de mixité met en péril, en effet, des valeurs républicaines. Bon, la mixité fait partie et l'égalité parfaite homme-femme fait partie des valeurs républicaines à défendre. La laïcité, c'est complètement c'est un truc étrange, parce que la laïcité telle qu'elle a été établie en France, c'est de dire l'État est neutre. L'État permet à chacun d'exercer sa religion tranquille. Mais l'État est neutre. Point. Après, on en vient à dire que manifester un signe d'appartenance religieuse, c'est contre la laïcité. Non, c'est pas contre la laïcité. Et puis après, bien sûr, tout le monde de bien savoir à qui ça s'applique. Et même, par exemple, le Philippot, donc le numéro 2 du FN, qui l'autre jour s'était exprimé, il disait oui, on devrait interdire les signes religieux, par exemple les voiles, les kippas et les grandes croix. Bon, alors au moins, il était équitable. Hein, tout le monde, voilà. Et puis après, il y en a d'autres qui ont protesté. Ouais, mais non, mais les grandes croix, voilà, les croix, ça fait partie de la tradition chrétienne française. Donc là, on a le droit, et c'est les autres qui n'ont pas le droit, etc. Enfin bon, foire d'empoigne. Jusqu'au moment, Philippot a fini par dire, ouais, mais grandes croix, je ne sais même pas ce que c'est, je n'en ai jamais vu, mais bon, voilà. Donc, on dit n'importe quoi. Et on pointe des détails qui deviennent des abcès de fixation et on crée de la violence avec ça. Bon, il faut désamorcer cette violence. Il faut désamorcer... Mais le problème, c'est que les hommes politiques en ce moment, quand ils proposent toutes ces mesures, ils ne les proposent pas pour résoudre le problème. Ils les proposent pour répondre à la mesure du voisin ou de celui d'en face ou de ce qu'il imagine de l'opinion publique. C'est purement stratégique. Bon, personne n'osera dire qu'il faut foutre la paix aux gens, parce qu'il sera considéré comme étant un laxiste. Donc il faut se montrer dur. Et se montrer dur, parce que comme ça, ça fait comme si on était ferme. Mais ça ne fait que créer de la violence, ça ne résout strictement rien. Donc, il y a nécessité peut-être d'arrêter de s'obséder sur certains points qui sont de détail et de considérer ce qui met la République en danger ou pas. Bon, le menu substitution, non. il me semble. Mmh. Voilà. Le refus de la mixité, oui, il me semble aussi. Donc voilà, donc faut avoir un peu de discernement. Et ça, c'est nécessaire. Et puis, alors, après, bon, vous parliez de métissage, tout ça. Alors, moi, je suis un petit peu. Je suis pas très fan de l'idée de métissage. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas une valeur obligatoirement. Mais bon.
C'est pas une valeur, c'est une réalité.
Une réalité, ouais. Mais alors après, on peut se sentir tranquille dans son identité et puis considérer l'identité de l'autre avec bienveillance et curiosité. Voilà. Bon, moi je suis plutôt chrétien et si l'autre est musulman, je trouve ça très bien. Puis c'est même intéressant. Et puis il y a pas de raison que ça crée une tension qui empêche qu'on fasse partie de la même nation. Voilà, c'est. Mais ça nécessite peut-être aussi pas mal de. Peut-être de produire un peu de savoir, un peu de connaissance, mmh. qu'on sache de quoi il s'agit. On délire beaucoup sur. Sur les musulmans, et musulmans peuvent délirer beaucoup sur ce qu'ils imaginent être la France. Mais c'est parce que nous sommes une société malade où il y a de moins en moins de circulation entre les différentes couches de la société.
En tout cas, ce que montre très bien ce livre, Alexis Génie, puis après on va en prendre peut-être 5 minutes pour si vous avez des questions à poser, c'est que face à toutes ces crispations identitaires, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et face aux discours de haine qui sont en train de se développer, il est vraiment essentiel de se donner, que chacun se donne les outils pour réfléchir et pour comprendre. Voilà, parce qu'à défaut de ça, on tombe automatiquement dans de la simplification et on rajoute encore, en tombant dans la simplification, on en rajoute encore dans la crispation, nécessairement. Donc c'est à chacun d'entre nous, probablement, de faire ce travail en allant chercher dans l'histoire, en essayant de comprendre. Bon, on est tous là réunis autour des livres, donc en lisant, parce qu'il y a quand même des productions qui aident à ça. Et je trouve que c'est une des choses qui vraiment ressort de ce dialogue, c'est qu'au fond, on a tous une forme aussi de responsabilité dans le fait d'essayer de se donner les outils pour comprendre.
Alors, pour une anecdote de salon. Je suis au salon de Lyon avec Benjamin, on faisait notre affaire, etc. Bon, il y a beaucoup de gens, à un moment donné, il y a des gens qui prennent la parole, qui parlent. Puis il y a une femme qui nous explique qu'elle est prof d'histoire géo à Villeurbanne. Alors Villeurbanne, c'est un peu une ville de la banlieue de Lyon. Et elle nous dit... j'avais traité un petit peu de la guerre d'Algérie dans ma classe, et un certain nombre d'élèves ne voulaient pas me croire qu'il y avait des Français qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que, alors j'imagine, elle a pas dit, j'imagine que il va y avoir, bon, c'était un comment dire, en termes d'origine des élèves, c'était assez mélangé parce que c'est une ville mélangée, donc. Un certain nombre d'élèves qui ne voulaient pas croire qu'il y avait des Français qui étaient pour l'indépendance et contre la colonisation. Bon, parce que c'était France contre Algérie, quoi. Et puis, donc voilà, elle raconte ça. Après, on va signer les bouquins. Et arrive une dame que je connaissais, qui était d'origine algérienne, et qui était la mère d'une élève que j'avais eue en classe. Et elle me dit, oh, mais j'ai entendu ce que vient de dire la professeure, là. Mais alors moi, je me demande, mais qu'est-ce que je leur ai transmis à mes enfants ? En fait, j'en sais rien. Alors, je vais vite aller demander à mes enfants ce qu'ils pensent savoir de ça. Et d'abord, je vais acheter votre livre. Vous allez le dédicacer pour mes enfants et ils vont le lire. Parce que brusquement, elle a eu une sorte d'inquiétude et s'est dit, mais aussi bien, mes enfants, ils ont une vision aussi caricaturale que ça. Et je le sais même pas parce que j'ai pas fait attention à leur transmettre ça. Et donc, c'est dire qu'en effet, il y a une crispation identitaire, mais une crispation mémorielle aussi. On imagine que la mémoire est extrêmement simple, que c'est des affrontements. Si c'est de la guerre d'Algérie, ça a été ultra complexe et très, très. Ça a plus été une guerre civile qu'une guerre. Parce que c'était. Tous les Français n'approuvaient pas la colonisation, au contraire. Mm.